Il est sur cette terre un arbre merveilleux. Sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne saurait blesser. Là sans craindre l'orage, on peut se reposer. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom. Et son fruit délectable.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2025-2026, intitulé L'oraison, racines, fleurs et fruits. Sixième épisode enregistré lors de la rencontre spéciale à l'oratoire Saint-Joseph de Québec le samedi 14 février et intitulé L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Le texte complet de la poésie de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, sur laquelle s'appuie cet enseignement, est disponible en ligne à l'adresse indiquée dans le descriptif de cet épisode. Et c'est encore frère Pierre-Éliane qui a mis en musique cette poésie. Toujours dans le descriptif, vous trouverez un lien si vous souhaitez la voir en intégralité. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'horizon sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activité. Bonne écoute.
En tes bras, ô Jésus, c'est lui qui me fait vivre de la vie des élus. À toi je m'abandonne, ô mon divin époux, et je n'ambitionne que ton regard si doux. Moi je veux te sourire, m'endormant sur ton cœur.
J'ai choisi cette poésie dont le titre est « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour ». Elle va en quelque sorte me servir de fil directeur, disons les choses ainsi, pour ce que je voudrais vous proposer ce matin, étant justement entendu d'entrée de jeu que je reprends des choses qu'on se dit souvent, mais l'oraison n'est pas un processus, l'oraison n'est pas un parcours balisé, on va du point A au point B en passant par telle et telle station, etc. C'est pas comme ça. De sorte que la poésie que j'utilise, elle va pas enfin nous donner la recette magique pour réussir à enfin faire oraison de manière correcte, mais elle vient apporter des éléments, une façon de s'exprimer. Alors le titre, hein, « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour », ça, il semblerait que c'est un titre que la religieuse qui a demandé cette poésie à Thérèse lui a un peu imposé. Mais elle commence pas comme ça. Hein. « Il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. » À juste titre, les commentateurs des œuvres complètes, et je pense que d'ailleurs c'est le père Guy Gaucher, qui n'était pas encore évêque à l'époque, qui était frère Carme, fait remarquer que c'est un arbre qui ressemble aux arbres de Marc Chagall, pour ceux qui connaissent le peintre. Hein, il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. Alors, cette poésie est un petit peu longue, et puis je vous l'ai fait écouter qu'une fois, je la referai écouter tout à l'heure. J'ai commencé par faire une espèce de, en bonne philosophie que je pratique, j'appellerais ça une phénoménologie de l'arbre. Mais rassurez-vous, ça va être simple. Or, je l'ai faite parce que ce que j'ai écrit, je ne vais pas vous lire in extenso, mais les notes que j'ai prises, je les ai prises durant les quatre semaines que j'ai passées dans un carmel en France, et je les ai passées dans un petit appartement aménagé dans une grange, et devant moi j'avais le bord d'une combe, j'avais une prairie, puis j'avais un bois, puis en plus à tous les jours j'allais bûcheronner dans le bois. Donc ça m'a un petit peu fait de la pratique. Le premier mouvement qui se dégage, alors je précise que pourquoi elle m'intéresse cette poésie, parce que elle décrit un rapport qu'on a à l'arbre. Dans le thème qu'on a choisi, un racine, fleurs et fruits, pour l'école d'oraison par Zoom, on a déjà dit plusieurs fois, je crois que la deuxième ou troisième rencontre, je vous ai remarqué que lorsque Thérèse d'Avila parle de l'oraison dans le livre de la vie, c'est une découverte que j'ai fait cette année, du reste, j'avais jamais bien compris les choses de cette façon, Elle va effectivement parler du jardin et des façons d'arroser le jardin. Mais lorsqu'on lit de près, on réalise que l'oraison, si l'oraison consiste à arroser un jardin, ça veut dire que l'oraison consiste à disposer un lieu où va avoir lieu la rencontre. Un lieu où va avoir lieu, c'est redondant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui veut aussi en conséquence dire qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'oraison qui ne produisent pas la rencontre, qui ne produisent rien, mais qui entretiennent un lieu où, par expérience, on sait, au fur et à mesure de notre existence, qu'il s'y produit une rencontre. Mais ça veut dire aussi que lorsque on s'en va faire oraison à un moment précis, ou lorsqu'on mène, on décide peu à peu, on commence à comprendre ce que cela veut dire que de mener une vie d'oraison, cette vie d'oraison n'est pas forcément une vie de rencontre continuelle, de relation continuelle au sens de « je te tiens la main », etc. Comme du reste, beaucoup de nos relations ici-bas, qui sont des relations qui en elles-mêmes sont continues, mais dont la présence du partenaire de la relation, dans le couple, dans l'amitié, etc., n'est pas constante. Non seulement n'est pas constante parce que physiquement, il ou elle n'est pas toujours là, ou les enfants ne sont pas toujours là, mais quand bien même il serait là, c'est pas ça ce qui fait la continuité de la relation. Le décor, en quelque sorte, que plante cette poésie est intéressant. Et là, je vais vous demander d'en revenir un peu à vos souvenirs d'enfance. Pourquoi ? Parce que il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Alors là, il y a une trouvaille absolument géniale chez Thérèse. Alors, chose curieuse dans sa poésie, la poésie a plusieurs mouvements, et puis elle va... Honnêtement, elle va perdre un petit peu de vue cette première image. Elle va la perdre de vue parce que lorsque va venir tout ce qu'elle développe concernant l'Eucharistie, en fait pour elle c'est l'hostie, hein, on est au 19e siècle, donc il y a une certaine distorsion entre la célébration eucharistique et la « entre guillemets chose eucharistique ». Donc elle parle du ciboire, elle parle de l'hostie, mais en fait elle ne parle pas de la messe. Bon, je ferme ma parenthèse, c'est juste pour rappeler ça. Lorsqu'elle va partir dans tout cela, elle va, dans le fond, développer une autre série d'images et d'expériences. Cependant, je tiens que l'expérience la plus profonde, plutôt celle qui éclaire justement l'expérience qu'elle fait de l'Eucharistie, c'est l'expérience de cet arbre. Et la première expérience qu'elle fait de cet arbre, c'est que l'arbre offre un abri. Donc c'est pas que l'arbre pousse, c'est pas que l'arbre porte des feuilles, des fleurs, des fruits, c'est que l'arbre offre un abri. Alors, c'est très intéressant parce que on peut l'aborder de différentes manières. Je vous propose par exemple cette image, je le fais, puis au Québec ça a moins de sens, mais quand je marchais en France, je marchais entre autres dans des terrains qui n'étaient pas du bois à perte de vue. Lorsqu'on marche en moyenne montagne, les arbres sont quand même beaucoup moins fréquents. Alors, essayez de vous imaginer ça, on part faire une excursion, dans les Appalaches, exemple. Lorsque s'agit de choisir un lieu pour s'arrêter à midi, c'est quand même assez rare qu'on décide de s'arrêter, prendre son pique-nique, en plein milieu de la prairie. On cherche un lieu... Vous imaginez là, vous imaginez qu'on est en train de marcher, puis ok, regardez, là, c'est l'heure, on va luncher, on va pas se poser en plein milieu de la route, et on va pas non plus se poser en plein milieu du champ. Et s'il y a un arbre un peu isolé qui nous appelle, c'est vers lui qu'on va aller. Alors, qu'il s'agisse aussi de se protéger du soleil, se protéger de la pluie, mais un arbre se protège moins de la pluie, il y a plutôt, et c'est un petit peu là que je voudrais commencer par avancer, il y a plutôt ce sentiment que si on a besoin de s'arrêter alors qu'on était pérégrinant, alors qu'on était marchand, on va chercher quelque chose qui développe un certain nombre de qualités. L'agrément du point de vue, par exemple, le fait de pouvoir s'asseoir par terre. Et l'arbre, dans nos campagnes, c'est quand même quelque chose qui nous appelle et qui nous attire. Et l'arbre sous lequel on puisse mettre, ce qui laisse penser que c'est pas un aubépine qui fait 3 mètres, qui est bourré d'épines et sous lequel on pourra jamais se mettre. Hein ? Vous me suivez ? Cette image, elle est importante parce que, en termes d'abri, il y a mieux que des arbres. Si vous voulez vous protéger du soleil, un arbre c'est bien, c'est du couvert, mais c'est mieux. Si vous voulez vous protéger de la pluie, je vous conseille le toit ou la bâche. C'est pas l'arbre qui est le mieux. Il reste que, dans notre expérience, l'arbre est quelque chose qui donne un abri. Et l'idée qui est en fait derrière, enfin, c'est pas une idée, c'est en fait quelque chose qu'on éprouve, c'est que la notion d'abri, c'est pas la perfection de, par exemple, du toit qui est au-dessus de notre tête, c'est tout ce que ça dégage de manière symbolique et impressive. L'abri en question n'est pas forcément un abri contre des choses menaçantes, c'est pas la forteresse, mais c'est simplement que l'arbre, et l'arbre par son couvert, dégage un espace propice pour s'arrêter, pour prendre du temps, pour lire un livre, pour écrire, pour faire une sieste, tout ce qu'on veut. Et il me semble que dans le fond, quand on réfléchit, dans notre expérience de l'existence et de la nature, il n'y a pas trop le choix. Soit nos abris sont des abris construits, soit nos abris sont des arbres. Alors, encore une fois, pas des abris au sens où on va affronter la tempête ou quoi, mais un lieu où on se sent bien, un lieu qui offre un espace dans lequel on se sent bien. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 lieux. La caverne, qui est plus rare du reste, c'est pas l'abri le plus... D'abord, ça manque un peu de vue, là. Et puis, la caverne, oui, c'est un peu le plus mauvais exemple. Là, on n'est pas très loin du bunker. C'est vraiment par rapport à quelque chose de violent. L'abri qu'offre l'arbre n'est pas un abri qui a pour vocation de nous protéger de quelque chose de violent. C'est simplement quelque chose qui nous permet d'exister. C'est un lieu propice qui nous permet à notre tour de jouir de l'existence. Ça va ? Il est sur cette terre un arbre merveilleux. Sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne serait blessé. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. Alors, elle a parlé d'orage. Alors, ça, évidemment, il y a de la petite Thérèse qui sort là-dedans. Il y a toute une ligne dans cette poésie. Il y a toute une thématique de l'abandon et de l'abandon qui est ambivalent parce qu'il y a le fait de s'abandonner. Mais il y a aussi le fait de s'éprouver abandonné. Alors, c'est aussi pour ça que l'histoire de l'arbre, elle fonctionne très bien, parce que si vous avez envie de faire une petite sieste, encore une fois, faire une sieste au vu et su de tout le monde en plein milieu de la prairie, c'est pas très parlant. Enfin, moi, Mais là, je fais appel aussi à ce qu'on éprouve. Hein. Je fais pas appel à la meilleure technique possible, parce que l'horizon n'est pas de l'ordre de la technique. Ce qu'on éprouve foncièrement, c'est qu'une petite sieste à l'ombre de l'arbre serait mieux venue qu'une petite sieste n'importe où sur le bord de la route. Et si je dis ça, c'est que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans de marche, peut-être comme qu'on est britannique, tu marchais beaucoup, je ne sais pas, mais quand vient le temps de se trouver une bonne place pour luncher, puis ensuite faire la sieste, en tout cas moi quand je lunche, après je fais la sieste, mais parfois ça met du temps pour trouver la bonne place, justement. Et je l'ai encore fait au mois de septembre là, avec les frères et l'équipe de l'Institut Jean Lacroix là, qui est venue chez nous au Québec. Quand on a marché dans le parc de la Mauricie, puis Dieu sait si ça manque pas d'arbres. Hein. Il reste que trouver la bonne place où on sent que ben là, c'est bien. Là, on va y être bien. En conséquence, on va s'y sentir ben, en confiance. De toute façon, au parc de la Mauricie, il n'y a pas de grizzly. Mais encore une fois, on ne cherche pas un refuge contre un danger, mais on cherche quelque chose où on se sent bien. Alors, tout ce que je décris là, c'est bien sympathique, mais c'est quoi l'intérêt ? C'est déjà une manière de se rappeler que l'oraison, c'est plus un arbre qu'on cherche quand on marche plutôt qu'une salle de gym où on va faire des efforts. Enfin, ceux et celles qui sont habitués à la salle de gym, n'annulez pas votre abonnement, mais c'est l'expérience aussi. Si on parle de l'oraison, on a souvent déjà dit que si on fait oraison, c'est qu'on a déjà fait oraison et puis qu'on voudrait que ça recommence parce qu'il nous semble que ça a été pour nous une expérience heureuse, une expérience de rencontre, même si d'entrée de jeu, on réalise que cette rencontre, on ne la maîtrise pas, qu'on ne pourra pas la reproduire à volonté. Bon. Il reste que découvrir peu à peu, découvrir un jour que mon oraison, elle n'est pas tant quelque chose que je fais qu'un lieu qui ressemble à un lieu comme cet arbre qui offre un abri, qui n'est pas un abri inexpugnable, qui n'est pas un abri à l'épreuve de toutes les épreuves, mais qui est un bon lieu, qui est un lieu accueillant, ben ça me fait prendre conscience que je m'installe dans l'horizon parce que l'horizon est installé dans ma vie. Et que les deux se rejoignent. Dans tout ce que j'ai dit là, il y a quelque chose, somme toute, d'assez simple, c'est que l'arbre, et encore une fois, dans notre expérience, alors je parlais de notre expérience d'enfant, pourquoi je disais ça ? Parce que je pense que comme adulte, on regarde moins l'arbre comme potentiellement quelque chose dans quoi on pourrait grimper. Mais si je raconte ça, c'est que au Carmel où j'étais, elles ont un terrain qui fait presque un kilomètre de profondeur, là, en plein bois de toute façon, donc les voisins, c'est du bois. Et puis, il fallait que je coupe des arbres. Et c'était l'une des jeunes sœurs qui me disait, bah, regardez, il faudrait que vous coupiez ça, ok, correct, regardez, j'ai que 15 jours, j'ai pas un an devant moi, mais je vais essayer de vous satisfaire pareil. De fil en aiguille, on se parlait effectivement d'un arbre qu'il fallait que j'élague, un beau chêne qui avait une très belle branche, comme ça. Et puis, on en est venu, de toute évidence, à évoquer nos souvenirs d'enfance, où, en tout cas pour ce qui regarde mon père, quand il coupait, quand il élaguait, je me souviens qu'il avait élagué un arbre, il avait fait en sorte de garder des tronçons de branches pour qu'on puisse continuer de grimper dedans. C'était sympathique de sa part. Donc, grimper dans un arbre, ça, c'est une expérience d'enfant. Mais notre expérience d'enfant, d'adulte, qui que nous soyons, hommes, femmes, quel que soit notre âge, quel que soit, c'est que l'arbre offre un lieu. Et d'ailleurs, on peut aller auprès d'un arbre. Je continue un peu ma petite phénoménologie, ça c'est mon petit plaisir à moi, mais on peut se rendre auprès d'un arbre. C'est intéressant parce qu'on ne se rend pas auprès de beaucoup de choses. On ne se rend pas auprès d'un rocher, hein, on ne se rend pas auprès d'un carrefour, mais se rendre auprès, ça fonctionne pour les arbres et pour les personnes. C'est curieux quand on y pense. Bon. L'arbre désigne un lieu. Une dernière chose peut-être intéressante, toujours dans sa question des arbres, c'est que dans le monde de la nature, l'arbre, à cause de tout ce que j'évoquais, y compris à cause du fait qu'enfant on a grimpé dans les arbres, enfin, peut-être pas vous tous, mais je pense un certain nombre quand même, là, l'arbre est aussi ce qui est de l'ordre de la verticalité, de la poussée, de l'élévation. En fait, quand vous réfléchissez, quand vous excluez tout ce que nous autres, les êtres humains, nous construisons, de constructions qui peuvent aller toucher les nuages, s'il s'agit de s'élever de la surface du sol, le plus simple, c'est quand même de grimper dans un arbre. Vous n'avez pas 36 solutions. Je ne le cite qu'en passant, mais ça va aussi de pair avec le fait que l'arbre étant un organisme vivant, l'arbre aussi, c'est la poussée. Et nous avons toujours bénéficié d'arbres qui étaient déjà grands avant que nous voyions quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a fallu un certain... Quand on était petit, on n'avait pas conscience que planter un arbre, ça prendrait du temps avant que ça fasse un arbre de 25 mètres, là. On a toujours bénéficié d'arbres qui avaient déjà poussé. En revanche, très petit, on a compris que les arbres, ça poussait. Que les arbres étaient de la force du végétal. Je reviens à cette poésie, maintenant. Il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne serait blessé. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. Elle a fait une présentation, elle n'a pas dit de quoi elle parlait. Hein. En termes littéraires, c'est bien vu. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Parce que c'est là que je veux en venir. Mais plutôt que de dire, regardez, aujourd'hui, on se parle de l'abandon, puis, vous allez me dire ce que vous en pensez, tout ce passage que j'ai fait par l'arbre abri, etc., c'est pour faire sentir que effectivement l'arbre, si je suis de nouveau le promeneur, l'arbre m'invite sans rien me dire, en fait, m'abandonner à son ombre pour faire une petite sieste avant de poursuivre ma marche. L'arbre, dans la mesure où il est naturellement un abri invite à l'abandon. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable se nomme l'abandon. Alors là, on en arrive à une chose curieuse, c'est que toute la suite de la poésie va nous parler effectivement de l'abandon que connaît Thérèse, et que, d'une certaine manière, nous, il me semble, nous aspirons tous à connaître pas le fait d'être abandonné, mais le fait de s'abandonner, le fait d'être capable de s'abandonner, qui n'est pas une décision personnelle, pas quelque chose qu'on décide en tapant du poing sur la table, etc. Donc, c'est pas quelque chose à quoi on arrive moyennant des bonnes techniques et un bon coach personnel qui nous prend pas mal de centaines de dollars à chaque rencontre, pour opérer sur nous et puis en arriver à la démaîtrise, le lâcher prise, enfin toutes les belles affaires qu'on vous vend à longueur de livres, à longueur de YouTube et à longueur de je sais pas quoi, et puis à quoi on n'arrive jamais parce qu'en fait c'est pas ça. Or, Thérèse nous dit une première chose, c'est que l'abandon est un fruit. Donc l'abandon, ça mûrit. La deuxième chose qui est un tout petit peu curieuse, c'est que de cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable se nomme l'abandon. Alors évidemment, il faudrait que j'aille un petit peu plus loin dans la poésie, mais on arrive à un paradoxe que je n'ai pas compris tout de suite, c'est que les arbres mûrissent des fruits qui ne sont pas en eux mais en nous. En tout cas, là, c'est le cas. Parce que l'abandon qui mûrit, il mûrit en nous. Il mûrit en Thérèse. L'expérience que Thérèse fait, j'ai oublié de préciser que on est, je ne sais pas la date exacte, je pense qu'on est en juin ou juillet 1897. Thérèse va mourir le 30 septembre 1897. Elle est à un tel état de fatigue qu'à la même époque, elle écrit ce qu'aujourd'hui on appelle le manuscrit C de manière impropre, mais ce n'est pas grave, sur un cahier qui pourrait ressembler au mien. Elle écrit avec un crayon à papier et lorsque vous voyez les facsimilés, d'abord une écriture pas très lisible, mais surtout c'est à peine appuyé, elle n'a pas la force. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas manipuler une plume, ça aurait été trop compliqué pour elle, la manipulation, etc. Donc elle est complètement au bout de ses forces, et elle rédige cette poésie qui est très personnelle, bien que ce soit une commande. Alors, je reviens sur ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Dans cette poésie, on voit effectivement passer la question de l'abandon en termes du délaissement. « Toutes les créatures peuvent me délaisser, je serai sans murmure près de toi mon passé. Et si tu me délaisses, ô mon divin trésor, privé de tes caresses, je veux sourire encore. » Ce qui dénote un courage, et un courage pourquoi ? Parce que Thérèse, depuis un an et demi, fait quand même l'expérience d'une absence totale de manifestation de Dieu dans sa vie. Que on appelle parfois la nuit de la foi, la crise de la foi. En fait, c'est pas une crise de la foi, c'est une crise de l'espérance, c'est-à-dire de ce qui fait aller en avant. C'est-à-dire la question, c'est pas de croire que Dieu soit là ou pas, c'est juste que elle n'en éprouve rien, puis elle n'en éprouve aucun moteur, elle n'en éprouve rien qui la fasse avancer. Elle le raconte, elle le dit, c'est pour moi qu'elle le dit, dans le manuscrit C. Elle évoque cette nuit qui la gagne, et puis ces voix qui lui disent, tu t'imagines qu'il y a un ciel, mais il n'y a rien du tout, mais avance ma fille, puis tu vas tomber dans le néant. Et elle le dit quasiment comme ça. Et pour elle, c'est une épreuve très forte. Or, ça rejoint une expérience qu'elle a bien souvent faite dans sa vie, qui commence avec la mort de sa mère, mais on se l'est déjà dit, qui s'est trouvée répétée par l'entrée tout à fait inattendue, et puis surtout qu'on lui a cachée, de Pauline, sa grande sœur, au Carmel, etc., etc. Donc des épreuves d'abandon au sens de se trouver abandonné, avoir été abandonné. Ça, c'est des choses que Thérèse a vécues, et c'est des choses qui sont tellement imprimées comme un choc dans sa psychologie que ça revient régulièrement dans sa vie. Donc pour elle, parler d'abandon, c'est loin d'être neutre. Parce que avoir été abandonné, c'est quelque chose qu'elle a vécu. Et elle a vécu, et elle le traîne comme un traumatisme. Donc avec la crainte qu'elle soit de nouveau en situation d'être abandonnée, d'avoir été abandonnée. Or, ce qui mûrit en elle, c'est tout autre chose, bien que ce soit... Enfin, tout autre chose. Est-ce que c'est tout autre chose ? Ça porte le même nom, c'est pas la même dynamique, mais peut-être que ça passe au travers, c'est de s'abandonner. D'être abandonné parce qu'on veut s'abandonner à... Je reviens un petit peu en arrière sur ce que je disais. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable se nomme l'abandon. La chose qui est curieuse, non seulement au trait de cette strophe, mais quand on finalement parcourt toute la poésie, c'est qu'on est parti d'un arbre dont on nous dit d'entrée de jeu que sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Alors, ça nous fait une image magnifique. Et puis, ça ouvre la thématique du ciel, sauf qu'on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. En général, les arbres, c'est plutôt les frondaisons qui sont dans le ciel, et les racines sont bien en terre. Racines qu'on ne voit jamais, d'ailleurs, sauf des racines. Il y a que l'arbre est mort. Elle nous avance cela, et elle nous avance que cet arbre a un fruit, et que ce fruit, il est un petit peu inattendu, parce que ce fruit n'est même pas quelque chose qu'on pourrait, ça pourrait pas être une représentation symbolique ou allégorique de quelque chose de repérable. Ce fruit désigne à la fois une attitude et un éprouvé qui est intérieur à la personne, donc qui ne concerne pas l'arbre. C'est pour ça que j'en viens à cette formulation un petit peu étonnante. L'arbre mûrit des fruits en nous, pas sur ses branches. L'abandon, il ne se cueille pas sur l'arbre. L'abandon, il se mûrit en nous. Et c'est toute une relation, c'est pour ça que j'ai fait toute cette phénoménologie de l'arbre, en quelque sorte, c'est toute cette relation au lieu que procure l'arbre qui fait que quelque chose en moi mûrit. Et que ce qui mûrit, ce n'est pas un fruit que je vais cueillir, parce que l'abandon, ça ne se cueille pas, malgré ce qu'elle va dire après. L'abandon, c'est en fait un mûrissement de la personne elle-même. Ce n'est pas un arbre qui se détache de soi. Ce qui m'amène encore une autre considération, c'est que, au fur et à mesure de notre vie, alors, ce que je dis là est à la fois dans la dimension psychologique et dans la dimension spirituelle, puisque dans le fond, la spiritualité se déploie dans notre psychologie et très au-delà, parce que ça prend tout notre être jusqu'à notre corps. Mais ce qui advient dans notre humanité, ce qui advient dans notre être spécialement par le fait que nous nous engageons, que nous nous sommes engagés dans une vie d'oraison, mûrit non pas comme des choses que peu à peu nous repérons de manière distincte, mais en fait, le fruit de l'oraison n'est pas distinct de nous, le fruit de l'oraison, c'est celui, celle que... Alors même, lorsque je dis celui ou celle que nous devenons, c'est même pas tout à fait juste, parce que si je prends ce que j'évoque aujourd'hui, l'abandon, c'est pas nous qui devenons une autre personne, l'abandon est une... est un, non seulement un approfondissement, mais une prise de conscience que nous en sommes là, de l'abandon, qui est une acceptation de notre être dans notre relation à Dieu, et aussi dans notre relation aux autres, et en conséquence dans l'acceptation de nous-mêmes. Si je dis ça, c'est que, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, en lançant ce thème cette année, honnêtement, il y a des choses qui se présentaient devant moi, mais je découvre au fur et à mesure qu'on s'en parle et puis que je le creuse de rencontre en rencontre. Mais dans la dernière ou l'avant-dernière rencontre, je ne le sais plus, je disais, bon, regardez, ces fruits de l'oraison, il y en a dont on peut quand même parler, on peut appeler ça les vertus. Hein. J'ai fait une rencontre, bah, c'était celle du mois de décembre, je crois, ou du mois de janvier, je ne sais même plus. En avançant, pour pas trop vite avancer le mot vertu, puis en conséquence rentrer dans des considérations assez classiques, mais qui nous auraient... un petit peu éloigné, je parlais des vertus comme les forces bienheureuses pour la vie, hein, reprenant cette expression d'un dominicain français, hein, les idées heureuses. Il reste que, si je parle tout de même des vertus, il y a des choses dont on reconnaît le mûrissement dans notre vie. Hein, j'ai déjà utilisé la prière du roi Baudouin, « Même si je ne sens rien, je sais que ton amour, Jésus, me transforme, me purifie, me rend sage, plus patient, plus aimant. » Donc, il y a bien, nous sommes tout de même capables, qui que nous soyons, de reconnaître qu'il y a un certain mûrissement de notre vie repérable dans certaines dimensions. Mais l'abandon n'est pas une dimension repérable comme la patience, par exemple. Alors, on a le caractère qu'on a, donc il y en a, de toute façon, on peut faire ce qu'ils veulent. La patience aura toujours des limites très vite atteintes. Et il y en a d'autres pour qui on se demande pourquoi ils demandent d'être plus patients, parce que d'entrée de jeu, c'est un petit peu la sérénité incarnée. Mais il reste qu'on se reconnaît mûrissant, on se reconnaît se bonifiant, se simplifiant sur un certain nombre de choses qui sont repérables et qui sont du côté de ce qui nous aide à vivre, qui sont du côté des forces à vivre, hein, ce que j'évoquais, des vertus à une rencontre passée. Mais l'abandon n'est pas une vertu de ce point de vue-là. On ne peut pas mesurer son abandon. On peut mesurer la capacité à encaisser les coups, à encaisser les mauvaises nouvelles, à encaisser les etc., puis on peut reconnaître qu'on progresse là-dedans, c'est pourquoi pas. Mais encaisser, c'est quelque chose d'assez limité par rapport à cet abandon dont on parle, dont je ne donne pas de définition, et dont pourtant, lorsque j'ai commencé d'en parler, chacune d'entre vous avait le sentiment de sentir qu'il y a là quelque chose d'important dans nos vies. L'abandon, pas le fait de sentir abandonné, pas le fait de subir l'abandon, pas le fait de souffrir d'un abandon, mais dans le fait de sentir que se trouver abandonné ou être capable de s'abandonner, que ce soit dans une situation précise ou que ce soit plus globalement dans la vie, il y a là quelque chose d'heureux, il y a quelque chose de libérant pour notre vie. Ce que je dis là, encore une fois, a une réalité, une consistance psychologique, pas besoin de faire oraison à tous les jours, il n'y a pas besoin d'être à l'école d'oraison pour penser ça. Il reste que, et j'en reviens une fois de plus à notre poésie, il reste que si l'abandon est peut-être référé à un acte, mais est surtout une espèce de, à la fois de qualité et de situation de notre être, il reste que cet abandon dont on espère du bien, qu'on espère connaître comme quelque chose qui est bon pour nous, semble mûrir en nous, dans un rapport avec cet arbre mystérieux dont on nous dit qu'il s'appelle l'amour et qui mûrit son fruit d'abandon en nous. Il y a donc, le donc ici n'est pas logique, hein, il est plutôt de l'ordre de l'évocation, je reprends l'évocation. Il y a donc cet abandon, hein, seul l'abandon me livre en tes bras, ô Jésus, c'est lui qui me fait vivre de la vie des élus, c'est bien ça ce qu'on cherche. Il y a donc bien un abandon qu'on serait bien en peine de produire par nous-mêmes à coup d'acte de volonté, en se bottant le derrière, en se disant « cette fois-ci, on va m'abandonner, vous allez voir ce que vous allez voir ». Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle un saut dans le vide. Il y a donc bien l'abandon tel qu'on le souhaite, tel qu'on l'espère, tel qu'on l'imagine, tel qu'on y aspire, etc., qui mûrit en nous, donc c'est donc bien un mûrissement, et qui mûrit dans ce rapport mystérieux à un arbre qu'on ne nous demande pas de planter et de faire grandir à coups de tuteur et d'engrais en vue de lui arracher un fruit qui s'appellerait l'abandon, il n'y aurait plus qu'à le consommer, frais de préférence. Mais une relation à un arbre qui était déjà là est suffisamment généreux et suffisamment ample pour que nous puissions y trouver un abri, ce qui laisse penser que cet arbre, c'est pas nous. Et que sous cet arbre et dans l'abandon avec lequel nous rendons à cet arbre, nous nous rendons auprès de cet arbre et nous goûtons l'abri qu'il porte, eh bien l'abandon grandit en nous, mûrit en nous, comme quelque chose qui a quand même nécessité que nous nous abandonnions, que nous découvrions et que nous éprouvions que cet arbre nous procurait un abri et qu'il allait peut-être nous procurer un peu plus qu'un abri, et en même temps pour que nous jouissions d'un fruit qui a mûri sans que nous soyons les acteurs, les agents de ce mûrissement. Ça va ce que je dis là? Ça fait une demi-heure que je parle, il me semble. Je me trompe? Ok, j'ai tourné qu'une page. Au moins une demi-heure. Pardon, tu dis? À peu près, c'est ça. Alors, Je vais conclure et puis on va échanger sur ça et puis sur tout ce qu'on veut. Hein. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est si vous êtes venu avec des affaires, ça sera le buffet chinois, c'est parfait. Si j'essaie de reprendre un tout petit peu certaines choses, si je fais un petit détour par à la fois le prophète Jérémie chapitre 17 et le psaume 1, qui sont deux textes qui nous rappellent que nous sommes des arbres. Si vous lisez Marc, je ne sais plus, je suis en train de travailler là-dessus pour une retraite paroissiale, mais Marc 8, il me semble, lorsque Jésus guérit un aveugle de naissance, non, il n'est pas de naissance, il n'y a que chez Jean qu'il est naissant, un aveugle, on ne sait pas s'il est de naissance, c'est une guérison dont vous vous souvenez peut-être, parce qu'il prend l'aveugle à l'écart, il crache par terre, il fait un peu de boue, il lui met sur les yeux, puis il lui dit, est-ce que tu vois? Vous vous souvenez de la réponse? Oui, je vois là qui... Je les vois, puis c'est comme des arbres. Il s'y prend une deuxième fois, puis cette fois, il voit clair. Alors, c'est très intéressant, je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais bon, c'est intéressant, parce que grâce à cet aveugle, nous savons qu'il nous sommes vraiment des arbres qui marchent. Jérémie 17, malheureux l'homme qui s'appuie sur son semblable etc. Heureux l'homme qui s'appuie sur le Seigneur, il est comme un arbre planté près du ruisseau. C'est pour ça qu'il y a une connexion directe avec le psaume 1. Or, la petite différence entre ceci et ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas l'arbre. Dans l'image, je vous rappelle que l'intérêt de prendre des images dans notre vie en général et notre vie spirituelle en particulier, c'est que les images, dans la mesure où elles peuvent être revêtues de significations complètement différentes et qu'elles ne forment pas un tout logique, nous permettent de suivre beaucoup mieux la réalité de la vie, qui n'est pas un tout logique, hein, c'est pas 1 et 0, c'est pas un algorithme, plutôt que des correspondances terme à terme, des correspondances précises. Nous pouvons être un arbre et nous pouvons être sous un arbre. J'y pense parce que c'est assez régulièrement que développant des choses, on se dit « Ah oui, mais dit comme ça, on en vient à cause de ce que développe tel réseau d'images, on en vient à dire des choses qui font utiliser les images et les expériences qui sont reliées à ces images d'une façon toute différente d'une autre ligne qu'on aurait pu aborder à un autre moment. » Fin de ma parenthèse. Donc, nous ne sommes pas, en l'occurrence aujourd'hui, l'arbre, mais c'est l'arbre qui nous offre quelque chose. La deuxième chose, le fruit de l'arbre, ne le cherchez pas dans l'arbre, le fruit de l'arbre, il mûrit en nous. La troisième chose, c'est tout de même, Thérèse évoque ce qui pourrait blesser. Alors là, c'est un petit peu plus délicat. C'est très curieux d'ailleurs que Thérèse évoque, hein, « Jamais sous son ombrage, rien ne serait blessé. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. » Est-ce qu'elle ne pense qu'à un orage ou est-ce qu'elle pense à d'autres choses? Parce que dans la dimension de l'abandon, il y a aussi il y a la dimension d'éprouver une blessure. Et puis, tous et tout, autant que nous le savons, parfois, il est bon d'être sur nos gardes parce qu'on pourrait se prendre des coups. Être sur ses gardes, c'est un peu le contraire de l'abandon, quand même. Or, dans la vie, on sait qu'il y a des fois, il vaut mieux être sur ses gardes. On ne va pas s'abandonner à n'importe qui, à n'importe quoi, à n'importe quelle situation. Ce que je dis est bien simple. Mais je souligne juste que dans sa poésie, qui est comme une tresse, hein, chez Thérèse, il y a une image qui vient, mais en fait, il y a plusieurs autres choses qui s'en viennent, puis qui sont tressées ensemble, hein, des fibres, des brins. Il y a, entre autres, ou si on parle de musique, il y a quand même cette harmonique qui revient souvent, qui est harmonique un peu inquiétante parce qu'elle évoque quand même la possibilité d'être blessé. Tout de même. C'est pas Dieu qui va nous blesser. Enfin, en tout cas, alors là, vous voyez, on parlait d'image. Si on va dans le cantique spirituel de Jean de la Croix, la blessure, elle est heureuse. Mais là, on parle pas d'une blessure heureuse. Là. On parle d'un coup infligé. On se l'oubliera pas.
Détresse, est-ce que ça peut être comme les racines de là?
Ça pourrait. Alors, j'évoquais les tresses parce que... Alors ça, c'est... Mon Dieu, est-ce que je devrais faire cette parenthèse? Je travaillais... Je l'ai écrit lorsque j'étais durant la retraite. Et puis quand je suis rentré à Paris il y a une semaine, j'ai entre autres fait stock d'un certain nombre de livres, dont un livre fort intéressant qui n'est pas sans rapport avec, peut-être pas ce que je vous dis aujourd'hui, mais plus globalement, l'école d'oraison, la vie d'oraison, etc., qui traite de la question de l'attention. Alors, pas de la tension, mais de l'attention. Hein, l'attention est un marché juteux, qui rapporte beaucoup d'argent à tous ceux et celles qui écrivent dessus, et qui vous explique que l'attention est un capital que vous ne devriez pas dilapider de n'importe quelle manière, et qui vous explique que si vous achetez leur livre à $25, vous allez être capable de savoir vraiment ce que vous devez faire du capital de votre attention. Si je dis ça, c'est que je pourrais vous citer des ouvrages alors qui sont plutôt publiés aux États-Unis, dont dans le titre, vous avez justement des termes tels que... Alors, de tête, parce que j'ai vu vite passer, mais il y avait l'un des titres, c'était « Ne vous laissez pas voler votre attention ». Etc. Donc l'attention est quelque chose dont on vous a aussi expliqué que toutes les fois que vous alliez vous connecter sur Internet, l'attention c'est ce que Facebook, YouTube, X, Instagram, qui vous voulez, cherche à retenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous réalisez que ça n'a pas de bon sens de perdre 75 minutes sur YouTube alors que vous avez cherché un petit tutoriel de 3 minutes pour savoir comment déboucher votre WC. Et c'est là que vous y avez passé pas mal de temps parce qu'ils ont réussi à capter votre attention. Mais c'est une vision très limitée de l'attention et il s'avère que je suis très content parce que j'ai trouvé un essai d'une jeune philosophe française qui en plus écrit d'une façon telle qu'on rit à chaque page. pour de la philosophie, c'est pas désagréable tout de même, et qui parle un petit peu de la tension d'édition sans parler vraiment. Alors, pourquoi je suis parti là-dedans? Si, à cause des tresses. C'est parce que la tension est certainement tout autre chose qu'un capital. La tension est plus probablement, mais bon là, ça nous emmènerait très très loin, plus probablement de l'ordre d'une tresse à plusieurs brins. Nous sommes toujours attentifs à plusieurs choses, et même avant d'être attentif à, parce que si je dis que je suis attentif à, c'est que j'ai un objet de mon attention, l'attention est plus globalement une façon d'être au monde. Et là, je pense à un couple de chercheurs à l'Université de Chicago, les époux Kaplan, qui ont pas mal étudié ça, et puis qui disent, l'attention, faut pas confondre l'attention et la concentration. Là. La concentration, c'est la capacité dans mon attention à resserrer mon faisceau sur quelque chose de précis. L'attention, en fait, c'est une forme d'être au monde qui se nourrit de bien des choses à la fois. C'est ça ce qui me fait penser à cause de ta remarque, Thérèse, sur la question de la tresse. Mais je laisse un petit peu cette question de la blessure. Je voulais quand même juste le noter parce que dans la poésie de Thérèse, il y a tout de même quelque chose qui court, que j'ai dans le fond déjà évoqué dans le thème, dans le mot de l'abandon. Thérèse a souffert d'abandon, et elle a souffert y compris au Carmel. On ne peut pas l'oublier. Et si on parle d'abandon, faut toujours être conscient qu'on use d'un mot, on met sur la table un mot qui est lourd, surtout pour ceux et celles qui auraient eu à souffrir d'abandon, y compris à ceux et celles qui ont souffert d'abandon avant même le début de leur vie consciente, hein, le syndrome d'abandon. Dans l'enfance, c'est pas rien. Bah, souvent, c'est ce qui suit là. Un accouchement pour lequel on a séparé l'enfant de la mère, c'est pas sa faute, là, c'est chose qui peut, pas forcément, mais peut produire un syndrome d'abandon. Et c'est parfois très difficile à décrypter. Parfois, j'en ai l'expérience, enfin, j'en ai pas l'expérience personnellement, mais j'y pense parce qu'une personne que je connais très bien, une mère a mis 10 ans à comprendre que ce dont souffrait sa fille était un syndrome d'abandon à cause de la façon dont s'était passé l'accouchement et les 3 premiers jours de la naissance. Elle n'avait jamais fait le lien, hein, parce qu'on ne lui avait jamais permis de comprendre que ce que souffrait sa fille à l'âge de 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans, puis 25 ans, était référé aux 3 premiers jours de la naissance. Donc lorsqu'on parle d'abandon, il faut quand même avoir conscience qu'on joue avec un mot qui est lourd, donc il vaut mieux tout de suite préciser. Bon. En passant, mon objectif n'était pas et n'est pas de faire toute un topo, un enseignement sur l'abandon. Mais s'il y en a qui s'intéressent, et je pense que ça existe, et entre autres les séminaristes, vous devez avoir ça dans votre bibliothèque, dans la revue Christus, il y a eu il y a 3 ans un excellent numéro sur l'abandon. C'est la revue Christus, ouais, c'est majeur. Vraiment, j'ai trouvé ça remarquable. Et puis la dernière chose, c'est que tout ce qu'on évoque au travers de l'arbre, et ça un petit peu plus loin dans sa poésie, Thérèse l'évoque, ce fruit de cette vie me donne le bonheur, mon âme est réjouie par sa divine odeur. Alors ça va jouer avec tous les sens. Ce fruit, quand je le touche, me paraît un trésor, le portant à ma bouche, il m'est plus doux encore. Alors c'est là qu'en fait elle est en train de découvrir, puis vraiment au sens de je découvre, tout ce que la dimension sacramentelle parfois n'arrive pas à dégager. Parce que là, elle est en train de parler de l'Eucharistie, de la communion. Puis que, quand je dis l'Eucharistie, c'est un terme qui n'est pas son terme à elle. À l'époque, on ne parle pas d'Eucharistie, on parle de la messe et l'hostie. Et la messe, ça fait de l'hostie. Ce que je dis là est un petit peu brutal, mais on est à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que la messe, c'est la messe, puis on ne communie pas la messe. Et puis d'autre part, la messe, c'est une transformation du pain et du vin, sauf que le vin, oubliez-le parce que ça ne vous concerne pas, du pain qui d'ailleurs ne ressemble pas du pain, mais qu'importe, et c'est des hosties, et l'hostie, c'est le corps du Christ, c'est le Saint-Sacrement. Tout ça est parfaitement vrai, mais vous comprenez bien que lorsque je le dis de même, c'est un petit peu désarticulé, et c'est ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents au XIXe siècle, de l'un ou l'autre bord de l'Atlantique, on en était là. Alors Dieu merci, la Trinité Sainte étant un petit peu plus intelligente que nous, elle arrive toujours à nous rejoindre, y compris dans la dimension sacramentelle. Il y a juste que si on est capable de redéplier, parce qu'on a un peu froissé la dimension sacramentelle, c'est mieux. Bon. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il y a d'autres choses qui se sont passées, etc. Il reste que pour Thérèse, il y a toute une expérience sacramentelle de l'hostie dont j'ai des raisons de penser lorsqu'on parcourt un petit peu sa vie, qu'elle est un petit peu, comment dire, elle est d'autant plus un exercice de foi que tout ce que pourrait dire le sacrement, puisque le sacrement c'est fait pour être signifiant, bah, est très 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 replié. Alors, ça c'est ce qui arrive à Thérèse. Il reste qu'il y a toute une part du poème qui est centrée sur l'expérience que Thérèse fait dans cette présence du Christ au tabernacle, hein, le divin prisonnier du tabernacle, comme elle va le dire dans une autre poésie, qui est à la fois très beau, parce que c'est bah, toute la dévotion des sœurs qui, dans la journée, vont prier, hein, le cœur des carmélites, il est fait de telle sorte que, au travers des voilages, on sait que le Saint-Sacrement est là, puis ça c'est très important dans leur tête, c'est bien correct comme ça. Mais en même temps, il y a une frustration chez Thérèse, qu'elle exprime plus d'une fois, qui est que, bah oui, mais enfin, le prisonnier du tabernacle, s'il pouvait être un petit peu plus causant, ce serait mieux quand même. Et puis en plus, il est un peu prisonnier au tabernacle, quoi. Et il y a tout un... C'est très intéressant, parce qu'il y a toute une exacerbation d'une dynamique qui est vraie dans l'Eucharistie. C'est inscrit dans l'Eucharistie depuis la vie, la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à aujourd'hui pour nous, qui est que nous rencontrons vraiment Dieu dans l'Eucharistie, nous nous donnons à lui, il se donne à nous, puis en même temps, mais d'abord on sent rien là, puis c'est pas fini là. Je veux dire, on a bien conscience qu'il y a quelque chose dans l'Eucharistie qui nous rejoint, Dieu même nous rejoint, Dieu nous transforme, mais toute évidence, on n'est pas 100% transformé, parce que quand je vois rien que ce que je pense de mon voisin ou de ma voisine du banc en pleine messe, a priori, la transformation n'a pas complètement fonctionné comme prévu. Donc ça c'est intrinsèque à la dimension sacramentelle, qu'il y ait, alors en termes un petit peu psychanalytiques, une forme de frustration, là. Mais Dieu n'est pas un père qui s'amuse à nous frustrer, c'est pas ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puis c'est ici dans notre expérience humaine. Or, Thérèse Levier s'est inscrit. Mais ce que je voulais aussi souligner, c'est que ce qu'elle évoque de l'arbre, etc., ça évoque aussi, je vous ai évoqué Jérémie 17, ça évoque beaucoup d'autres arbres de la Bible, à commencer par l'arbre de Genèse 2, 3. Et dernière chose, alors là je vous glisse, c'est pas capital pour comprendre la poésie, mais depuis un certain temps dans sa vie, Thérèse lit Jean de la Croix. Et elle lit Jean de la Croix, et non seulement elle le lit, mais elle le lit avec cette fibre qui se développe en elle, qui est une fibre poétique, et la poésie c'est un raccourci pour retrouver le réel de la vie. Poésie, c'est pas pour s'évader. La poésie est en rapport avec le réel. Et le réel tel qu'il se donne. Moi qui fais de la philosophie, quand on veut travailler le réel en philosophie, bah, c'est bien de se tourner vers la poésie, parce que en philosophie, on est toujours dans un réel dont on commence déjà de parler. Donc on est en train de distinguer en objet de pensée. La poésie, elle vous remet dans l'éprouvé du monde et de la vie. C'est pour ça que nous en avons besoin. C'est pour ça que la poésie, c'est pas pour le décor, là. Dans nos sociétés, la poésie, ça devrait être quelque chose qui nous rappelle que, avant qu'on discute du monde et de ce qu'on veut en faire, le monde existe, le monde est. Dans toute sa richesse, hein, je ne parle pas simplement du monde qu'on touche, hein, du monde des sentiments, du monde des idées, etc. Et la poésie, normalement, elle nous ramène dans le monde en tant qu'il nous est donné à tous et toutes, avant qu'on le transforme, avant qu'on le pense, avant qu'on l'exploite, avant qu'on le domine, etc. Fin de ma parenthèse. Il reste que c'est important parce que pour Thérèse, elle a très vite eu une accointance avec Jean de la Croix au travers de la poésie. Or, dans le cantique spirituel, si vous allez dans le cantique spirituel, Jean de la Croix a tout un passage sur cet arbre où l'aimé, l'amante et l'aimé vont se retrouver, cet arbre à l'ombre duquel ils vont se retrouver, alors que ça a été l'arbre où la mère de l'amante, c'est très symbolique cette affaire, la mère de l'amante a perdu sa vie finalement, et on parle d'Ève. Mais bon, à cause des figures féminines, ça passe du côté d'Ève. Chez Thérèse, en fait, c'est en filigrane. Si vous allez lire le cantique spirituel, vous irez relire la poésie dont je vous parle, et puis vous verrez que c'est en filigrane.
Privé de tes caresses, je veux sourire encore. En paix, je veux attendre d'où Jésus ton retour. Et sans jamais suspendre mes cantiques d'amour.
Vous venez d'écouter la sixième rencontre de l'école d'oraison 2025-2026 intitulée L'oraison racine fleurs et fruits, rencontre hors série puisqu'elle se tenait à l'oratoire Saint-Joseph de Québec le samedi 14 février en présentiel. Pour participer à la soirée par Zoom, qui comprend un temps de prière en commun puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à ecoleoraisonzoom@gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour » de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.